J'ai découvert, je vous dirais, une sous-spécialité en médecine que je ne connaissais pas, mais qui est absolument fascinante. Donc, comment est-ce que le système immunitaire réussit à accepter une grossesse pendant 9 mois quand elle est supposée de faire le contraire?
Bonjour, ici Annie Demelt et bienvenue à cette entrevue Code Vie. On va parler aujourd'hui d'avancées dans le domaine de la médecine de la reproduction. On sait qu'un couple sur 6 au Canada a des problèmes de fertilité et heureusement, plusieurs d'entre eux peuvent devenir parents grâce à l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Par contre, pour certains couples, ces traitements-là ne semblent pas fonctionner du tout et on ne sait pas pourquoi. C'est pour des raisons qui sont inconnues. Notre invité aujourd'hui a pour but d'aider ces couples à devenir parents. Docteur Geneviève Genet est immunologue et chercheuse à l'Hôpital général de Montréal où elle dirige une clinique unique au pays. Docteur Genet, merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Alors, je voudrais commencer par un couple sur 6 qui a des problèmes de fertilité. Quand ils se rendent à vous, quand ils cognent à votre porte ou on reçoit un courriel, où est-ce qu'ils en sont justement dans leur cheminement d'habitude quand ils se rendent à vous?
Pas mal loin. Donc, quand on parle de la statistique, 1 sur 6 Québécois ont des problèmes de fertilité, c'est réel, c'est énorme. Mais les gens qui viennent à moi, c'est vraiment des patients pour lesquels on n'a vraiment aucune explication pour leur fausse couche à répétition ou leur infertilité. Donc, ils ont essayé multiples tentatives infructueuses, fait multiples fausses couches avec toute la médication qu'on a à offrir dans les programmes réguliers et ont toujours pas d'enfants. Donc, c'est des patients qui ont passé plusieurs années dans les cliniques de fertilité, plusieurs années à faire des fausses couches à répétition et qui sont vraiment au bout du rouleau. Donc, leur médecin leur dit « Ben, désolé, j'ai aucune explication pour ce qui se passe et vous avez échoué tous mes traitements. Allons voir si c'est peut-être pas le système immunitaire. » Donc, c'est des patients qui sont vraiment pas nécessairement à la fin de leur parcours, mais quand même en difficulté. Donc, ils ont vécu beaucoup de hauts et de bas. Ils ont vécu beaucoup de procédures médicales, beaucoup de fausses couches, beaucoup de transferts d'embryons. Donc, assez avancé dans le processus. Mm-hmm.
Puis, vous avez dit au bout du rouleau, pas juste physiquement, mentalement, émotivement aussi. Là,
ouais, parce que l'infertilité ou les fausses couches à répétition, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de hauts et des bas. Il y a beaucoup de deuil à faire. Il y a beaucoup d'émotions. C'est des patients très vulnérables. C'est des couples très vulnérables. C'est des couples qui voient tous leurs amis avoir des enfants, tous leurs amis parler de bébé, parler de maternité. Donc ça, c'est très difficile de sentir. C'est très isolant, on se sent très seul dans tout ça. Donc, les patientes que je vois vraiment, c'est des patients qui ont fait beaucoup, beaucoup de tentatives, mais surtout qui sont à un seuil d'émotion assez élevé quand ils arrivent dans la clinique et très vulnérables.
C'est quoi la théorie en ce moment par rapport à ça? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe pour ceux qui n'ont pas vraiment de réponse en ce moment?
C'est une excellente question. En fait, juste le fait que comme femme, on est capable d'avoir des grossesses, c'est un miracle immunologique. Donc, si on y pense bien, le système immunitaire est vraiment là pour rejeter tout ce qui n'est pas à nous. Mais dans le contexte d'une grossesse, l'utérus est un organe qui accepte un fœtus qui ne nous ressemble pas à 50% et qui donne le droit à ce fœtus-là de se développer en bébé. Donc, c'est assez extraordinaire comme phénomène. Donc, si on y pense bien, le système immunitaire est absolument est très, très important pour une grossesse normale. Donc, durant le cycle menstruel de la femme, le système immunitaire est recruté au niveau de l'utérus et ce système immunitaire-là est utile pour reconnaître l'embryon, aider l'embryon à s'implanter, aider l'embryon à former un placenta, mais aussi dire au reste du système, attaquez pas, il y a quelque chose de parfaitement normal qui se passe. Donc, on pense que certaines patientes qui ont des échecs de la reproduction, donc des fausses couches à répétition ou de multiples tentatives infructueuses à la fécondation in vitro, on pense qu'il y a un problème avec ce processus-là.
OK. Mais vous êtes... On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, c'est ça?
Exactement. Et puis, c'est très frustrant parce qu'on n'a pas de bons modèles animaux et on n'est pas capable de faire des biopsies de l'utérus pendant que la femme est enceinte parce qu'on peut provoquer une fausse couche. Donc, il y a comme une espèce de boîte noire de phénomènes immunologiques qui se passent au début de la grossesse qu'on n'est pas capable d'aller chercher comme scientifique. Donc, on devine ce qui se passe. On a quand même de la bonne littérature pour supporter que le système immunitaire doit grandir avec la grossesse et doit aider la grossesse tout au long de la grossesse, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, pour ces patientes-là, on n'a pas de test pour déterminer que leur problème est immunologique à la base. Et l'infertilité ou les fausses couches à répétition d'étiologie immunologique sont vraiment un diagnostic d'exclusion. Donc, on y pense seulement lorsque la femme a fait de multiples tentatives et puis est toujours pas enceinte et a échoué tout ce qu'on a à lui offrir. Mais en plus, toutes les investigations qu'on fait d'habitude sont normales.
Okay.
Donc, c'est vraiment juste là qu'on commence à penser à un problème au niveau du système immunitaire.
Alors, c'est une cause aussi qui vous a interpellé au plan personnel lors de votre résidence et qui vous a permis de faire certains liens là, pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de cette connexion, ce lien personnel.
Dans la résidence, mon conjoint et moi avons décidé qu'on voulait des enfants. Donc, on a commencé à s'essayer, mais malheureusement, on a fait plusieurs fausses couches. Et puis, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai été admise dans le programme d'immunoallergie. Et puis, à peu près 2 mois plus tard, je faisais une clinique avec Dr. Phil Gold.
Et qui est une personne très connue. Là,
qui est une personne très connue. C'est un médecin extraordinaire et un chercheur extraordinaire à l'Hôpital général de Montréal. Et puis, lui, justement, faisait une clinique d'immunoallergie. Puis, c'est quand même quelqu'un que je connaissais de loin, juste à cause de sa personnalité, de ses connaissances scientifiques, de ses publications. Donc, je le connaissais de ce qu'il avait fait avant. Mais là, c'est rendu mon mentor ou au moins mon professeur à ce moment-là. Et puis, justement, on avait vu un cas dans la clinique, une femme qui avait fait plusieurs fausses couches. Il me semble que c'était 7 ou 8 fausses couches. Puis là, je me demandais, comme résidente en immunologie allergique, qu'est-ce que cette patiente faisait dans notre clinique? Donc, je vais voir Dr. Gold. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait pour cette patiente-là? Il dit, ah! Inquiète-toi pas, donne-y des immunoglobulines intraveineuses, tu verras, elle va devenir enceinte. Ah, OK. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, finalement, on a traité cette femme-là avec un produit sanguin qui s'appelle les immunoglobulines intraveineuses et comme de fait, elle est tombée enceinte et elle a pu garder la grossesse jusqu'à la fin. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais complètement surprise et j'ai découvert... je vous dirais, une sous-spécialité en médecine que je ne connaissais pas, mais qui est absolument fascinante. Donc, comment est-ce que le système immunitaire réussit à accepter une grossesse pendant 9 mois quand elle est supposée de faire le contraire? Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment venu me chercher, surtout, oui, au niveau personnel, mais au niveau scientifique aussi. Comment expliquer ce phénomène-là?
Pour ce qui est de l'immunoglobuline, c'était quelque chose qui se donnait, puisque c'était un petit peu surprenant justement de voir cette femme-là dans une clinique d'allergie. Comment ça fonctionnait pour ce traitement-là?
Il y avait quand même quelques publications dans la littérature à ce moment-là sur l'utilisation des immunoglobulines intraveineuses qu'on dit hors indication. Donc, les immunoglobulines intraveineuses, si données avec une assez grande quantité, peut changer la façon que le système immunitaire perçoit son environnement. Donc, on pense que les immunoglobulines intraveineuses dans la fertilité vont rétablir la capacité du système immunitaire à reconnaître l'embryon, aider l'embryon à s'implanter et à ne pas le rejeter. Donc, on avait un petit peu de littérature à ce moment-là, pas beaucoup. Et puis, c'est une molécule qui était intéressante. On l'avait essayé sur une couple de patientes. Donc, on avait une cohorte de 15 patientes pour lesquelles on a vraiment traité avec des immunoglobulines intraveineuses parce qu'on n'avait rien d'autre à leur offrir. Et comme de fait, 13 de ces patientes-là sont tombées enceintes. Donc, on s'est dit, OK, on va continuer. Et de fil en aiguille, on s'est ramassé avec un petit peu plus que 100 patientes. Et puis, 60 % d'entre elles ont des bébés en ce moment.
Wow. Alors là, la clinique, elle est unique au Canada. Ça se fait pas ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau concept d'essayer de justement de faire ça de façon plus coordonnée, de plus méthodique, si on veut, ou qu'est-ce qui
Exactement.
Fait que la clinique est unique?
Bien, c'est la seule clinique en santé universitaire au Canada qui fait de l'immunofertilité. Donc, un immunoallergologue s'attaque vraiment aux problèmes de fertilité. Et puis, c'est une clinique unique parce qu'on fait affaire avec toutes les cliniques de fertilité au Québec et tous les centres d'obstétrique au Québec. Donc, c'est vraiment un centre de référence pour des patientes qui ont vraiment tout échoué, pour lesquelles leurs médecins n'ont rien d'autre à offrir. Mm-hmm. Donc, on recueille ces patientes-là en clinique. Et puis, c'est une clinique qui est unique au Canada aussi parce qu'il n'y a pas de formation qui existe. Donc, moi, quand je cherchais justement une formation avant de pouvoir me lancer en pratique, c'est impossible. Donc, il n'y a aucun centre qui offre cette formation-là. Donc, il faut aller chercher des petites parts de différentes formations pour pouvoir faire ce que je voulais faire.
Mais là, maintenant, c'est quelque chose que vous offrez.
Exactement. Donc, depuis 3 ans, on a un programme de fellowship pour l'immunologie de la reproduction. Donc, on prend des résidents en immunoallergie et bientôt en médecine interne et en fertilité. Et on leur enseigne un peu c'est quoi la théorie derrière tout ça et quelles molécules on peut utiliser pour favoriser les outcomes, les issues chez des patientes infertiles ou ayant des fausses couches à répétition.
Okay. Puis là, vous avez quelqu'un à Québec, si je ne me trompe pas.
Ben, oui, on a une fellow en ce moment qui est en congé de maternité. Donc, ça s'en vient bientôt. Elle était enceinte jusqu'à hier. Je ne sais pas si elle a eu son bébé depuis hier ou pas, mais c'est une résidente de médecine interne qui a fait son immunoallergie, qui est intéressée justement par l'immunologie de la reproduction, et elle fait son fellowship avec moi pour, en fait, il lui reste 6 mois, là, et puis elle va devenir mon homologue à Québec. Donc, on va être 2 au Québec à faire ça, on va pouvoir collaborer sur des projets de recherche, on va pouvoir se partager des patientes, nos connaissances, et puis j'espère que de fil en aiguille, on va pouvoir faire ça avec des résidents au travers le Canada pour apporter l'expérience dans d'autres provinces aussi.
On a parlé d'éléments là, de chance, si on veut, dans les découvertes. Et puis bon, la pandémie, ça a été tout un défi là, pour beaucoup de monde, dont pour la clinique. Ça représentait quoi la pandémie pour vous? Puis quelle opportunité est-ce que ça vous a donné aussi?
Ça, c'est une excellente question. Donc, La pandémie, nous, on n'a jamais chômé. On a continué à voir toutes nos patientes en personne, en télémédecine. On n'a jamais arrêté nos activités, donc on a pu continuer. Ça, c'était vraiment incroyable. On s'est adapté comme tout le monde. Et puis, le gros problème avec la pandémie, c'est qu'il y avait une pénurie de donneurs de sang. Donc, ça veut dire que les produits sanguins sont plus rares. Ils doivent seulement être réservés pour des patients qui en ont absolument besoin. Donc, le gouvernement, pendant ce temps-là, a pris la décision de réserver les immunoglobulines intraveineuses pour certains patients et interdisait l'utilisation hors indication des immunoglobulines. Donc, on n'y a pas eu accès pour des patientes avec des problèmes de fertilité pendant 2 ans. On a pu faire du lobbying auprès du gouvernement pour obtenir les immunoglobulines intraveineuses, ce qu'on a depuis le 3 janvier 2023. Mais durant les 2 ans de pandémie, on a dû trouver d'autres solutions. Donc, c'est retourner à la littérature, aller voir d'autres cliniques, qu'est-ce qu'elles font, quelles molécules utiliser, quels tests faire. Donc, on a réussi à trouver plusieurs molécules qu'on pouvait utiliser pour ces patientes-là durant le moment de la pandémie. Et on a réalisé, en fait, qu'il y a certaines molécules qui fonctionnaient très bien et qu'on avait peut-être pas besoin d'immunoglobulines intraveineuses. Mm-hmm. Donc, ce que la pandémie nous a permis de faire, c'est vraiment retourner dans tous les dossiers de toutes les patientes qui ont été traitées à la clinique pour voir combien de patientes avaient des naissances vivantes avec les immunoglobulines ou avec d'autres traitements comme la cortisone, le plaquenil et d'autres traitements qui sont faits dans d'autres cliniques. Et puis, on a pu réaliser que ces traitements-là nous donnaient des naissances vivantes. Et en ce moment, les critères d'accès pour les immunoglobulines, c'est avoir échoué d'autres traitements plus simples okay. avant de passer par...
Ça serait des options peut-être dites plus simples oui. Avant de se rendre là.
Oui, okay. Exactement. Peut-être avec moins d'effets secondaires, un traitement moins onéreux, un traitement... parce que pour une injection d'immunoglobuline intraveineuse, il faut quand même rester en clinique 4 heures.
Okay.
Donc, c'est une demi-journée de travail perdu pour recevoir des immunoglobulines intraveineuses, tandis qu'il y a d'autres médicaments qu'on peut donner par la bouche, par exemple. Puis ça, c'est un traitement à domicile.
Donc, on a un problème et puis on a certaines solutions qui semblent bien fonctionner. Qu'est-ce qui manque? C'est le lien entre les deux qui manque, c'est le test, c'est... Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour essayer d'élucider ça?
Ça aussi, c'est une excellente question parce que le problème quand on a un couple comme ça qui arrive en clinique, c'est qu'on n'a pas de test pour dire « Votre problème est immunologique à la base, voici la molécule qui va mieux vous aider. » Ou à l'inverse, ben, « Vous n'avez pas de problème immunologique, allez chercher ailleurs, vous perdez votre temps dans ma clinique. » Et si on n'est pas capable de faire ça, à ce moment-là, on devine ce que la patiente a de besoin. Donc, oui, on devine très bien. On fait des tests, on regarde l'historique de la patiente, on parle avec nos collègues. Donc, on fait des educated guesses, si on veut. Mm-hmm. Mais ça demeure qu'on n'a pas de tests pour diriger nos traitements. Et donc, on n'a pas la possibilité d'offrir une médecine personnalisée, ce qui est vraiment approprié pour ces patients-là qui sont vraiment en fin de parcours. Mm-hmm. Donc, nous, ce qu'on fait pour pallier à ça, c'est qu'on inclut toutes les patientes qui arrivent dans la clinique dans un registre pour pouvoir documenter quelles molécules est-ce qu'elles ont reçues, c'est quoi les issues, c'est quoi les effets secondaires, est-ce qu'elles ont été capables d'avoir un bébé, oui ou non. Et l'autre chose qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend des prises de sang avant et après le traitement pour essayer de voir s'il y a des différences au niveau du système immunitaire entre les patientes qui réussissent avec ces traitements et avec les patientes qui ne réussissent pas avec les traitements versus les patientes qui sont capables d'avoir des bébés sans traitement. Mm-hmm. Et on essaie de voir est-ce qu'il y a une différence immunologique entre ces patientes-là pour voir si on est capable d'avoir un test éventuellement à développer pour diagnostiquer l'infertilité ou les fausses couches à répétition d'origine immunologique.
Alors, c'est vraiment le test sanguin, ça va faire toute la différence, là, vous croyez, là?
Je pense que oui, bien, au moins être capable de déterminer si le problème est immunologique à la base pour pouvoir mieux cerner les traitements. Donc, au moins partir avec ça, ça va déjà être énorme.
Mm-hmm. Et pour, ça va peut-être... Pour vous puis pour les patients aussi,
pour, les pour patients, avoir des réponses. Surtout, pour avoir des réponses, parce que le gros problème en infertilité inexpliquée ou en fausse couche inexpliquée, c'est vraiment ça, c'est le inexpliqué. Donc, je trouve comme être humain, on essaie toujours d'avoir des explications, on essaie de tout expliquer. Et quand, comme couple, on n'est pas capable d'avoir des bébés, mais tout le monde autour de nous est capable d'avoir des bébés. On a tout essayé pour avoir un bébé, puis on n'est toujours pas capable. Ne pas savoir pourquoi, c'est très difficile, c'est très isolant. Donc, même si on est capable de leur dire « Ah, ben voici votre problème, c'est un problème immunologique, voici comment je peux vous traiter », ça, ça aide beaucoup. Mais à l'inverse de dire « C'est pas un problème immunologique, vous n'avez pas besoin de mes traitements », ça aide énormément aussi.
Comment est-ce qu'on pourrait mieux vous supporter dans ce que vous faites, là? Parce que là, vous êtes très investi personnellement aussi, là, mais vous avez besoin d'infrastructures, si je ne me trompe pas.
C'est vraiment de l'infrastructure qu'on a besoin. Premièrement, c'est d'avoir quelqu'un sur le plancher. Donc, d'avoir une infirmière, même à temps partiel, une infirmière qui est vraiment dédiée à cette clinique-là, qui est capable de répondre aux courriels des patientes, qui est capable de séduler les patientes, qui est capable de prescrire des tests. Des fois, tu sais, on a des patientes qui nous arrivent avec une nouvelle grossesse, mais il faut qu'on fasse les tests, il faut qu'on les envoie voir des consultants, il faut qu'on suive la médication. Donc, vraiment avoir quelqu'un pour coordonner tout ça va nous permettre de voir beaucoup plus de patientes. Parce que là, en ce moment, c'est moi qui fais tout ça, c'est les patientes qui m'envoient directement des courriels. Donc, éventuellement, si je veux voir plus de patientes, il faut vraiment cette infrastructure-là pour pouvoir prendre soin des patientes qu'on a. Et puis, sinon, c'est vraiment d'avoir une infirmière de recherche pour pouvoir être sûr que les échantillons se rendent à bon port pour manipuler les échantillons en laboratoire, pour pouvoir être sûr que toutes les patientes sont rentrées dans toutes les bases de données, pour pouvoir coordonner avec d'autres cliniques puis éventuellement se bâtir un réseau pan-québécois, pan-canadien. Et puis, c'est d'avoir une coordonnatrice de recherche pour nous aider avec tout ça. Donc, vraiment, la clé en ce moment, c'est vraiment l'infrastructure pour nous permettre de voir plus de patientes puis avoir plus d'impact, former plus de gens.
Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos patientes, pour les couples qui viendront voir ou pas à l'avenir? On s'en va vers, on a parlé de médecine plus spécialisée, de tests plus précis. Où est-ce que vous pensez qu'on s'en va? Puis, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces gens-là qui ont des problèmes de fertilité en ce moment?
J'espère qu'on s'en va vers un test diagnostique. Moi, je pense qu'on va être capable. Puis, c'est vraiment le test diagnostique qui est vraiment très, très important. Mais ce que je souhaite pour ces couples-là, c'est vraiment de ne pas se perdre de vue durant le processus parce que c'est tellement facile. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de deuil à vivre. Et puis, des fois, les patients sont tellement investis dans le processus et dans l'explication de la chose qu'ils s'oublient comme couple. Donc, il y a beaucoup, un très haut taux de divorce, de séparation chez les couples qui traversent des épreuves comme ça. Mm-hmm. Juste parce que, c'est ça, on se perd de vue, on médicalise trop la chose. Donc, tu sais, c'est vraiment de déresponsabiliser le couple, de dire « c'est pas de votre faute, il y a un problème médical, c'est pas de votre faute, c'est un problème médical, c'est de notre faute si on n'est pas capable de le trouver. Donc, aidez-nous à trouver le problème médical, attendez qu'on fasse l'évaluation et puis on va pouvoir vous aider. Mm. Donc, pour une grande majorité de ces familles-là, on va être capable de leur donner un enfant. Mais des fois, ça marche juste pas. Puis être capable de dire ça à un couple, de dire « ça marchera pas naturellement, on s'en va ailleurs. » Don de vulve, mère porteuse, adoption, ça aussi c'est thérapeutique. Parce qu'à ce moment-là, on se décroche de ce projet-là, puis on est capable de se concentrer sur un autre projet ensemble.
Merci beaucoup, Dr. Genet. Wow, c'est puissant de dire « c'est pas vous, c'est nous qui n'avons pas encore les réponses ». Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes évidemment très appréciée. Merci d'avoir écouté cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Pour en savoir plus sur la recherche de Dr. Genet et sur d'autres initiatives qui sont soutenues par la générosité de nos donateurs, vous pouvez visiter le site web de la Fondation codevie.ca. Aussi, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux et n'oubliez surtout pas de vous abonner au balado pour plus d'entrevues Code Vie. Merci encore et à la prochaine entrevue.